à voix nue. Cette semaine, Sylvain Bourmont s'entretient avec Pierre Birnbaum. Ce soir, une curiosité politique.
Le premier poste, Pierre Birnbaum, que vous avez à l'université, c'est à Bordeaux. Bordeaux, pour la sociologie, c'est pas n'importe quelle ville. C'est la première ville, pratiquement, dans laquelle il y a eu une chaire de sociologie tenue par le père fondateur de la sociologie en France, Émile Durkheim.
C'est Durkheim, mais avant Durkheim, c'est Espinasse. C'est-à-dire que Bordeaux est un lieu très spécifique. Et même Raymond Aron a été assistant de sociologie à Bordeaux quelques temps. Et donc, le premier poste, en effet, que j'ai... Je me rends à Bordeaux en 1966 avec mon ami François Chazel, nous sommes maîtres assistants à l'époque, en compagnie donc de Boudon et de Bourricot. Et c'est une université tout à fait de très très haut niveau. Vous avez Moreau en philosophie, Mettey qui a été l'élève de Marcel Mauss, et l'ombre, comme vous venez de le dire, de Durkheim plane encore sur Bordeaux. Et c'est peut-être aussi dans ce contexte-là que je vais m'intéresser d'autant plus à Durkheim, puisque j'ai beaucoup travaillé sur Durkheim, car on n'aimait pas. Donc je trahis un peu Raymond Aron en m'intéressant à Durkheim, qui, vous le savez, est lui-même fils de rabbin. Donc je trouve quelque chose là qui m'étonne et qui fonde la sociologie. Et puis, pardonnez-moi de me répéter, j'ai aussi la chance incroyable de m'y rendre avec mon ami François Chazel, qui lui est issu de Normale Sup, Agrégation, Fondation Thiers, et qui est d'une bienveillance extrême à mon égard. Nous descendons ensemble à Bordeaux comme maître de conférence, maître assistant. Et c'est là qu'ensemble nous allons nous rencontrer sur un projet commun de transmettre, de faire passer, de faire connaître en France ce qu'est la sociologie politique, ce qu'est la sociologie, telle qu'elle se pratique à l'étranger et telle qu'elle demeure malheureusement inconnue en France. Donc nous allons énormément traduire de textes totalement inédits, des plus grands noms des sciences sociales, de Gulner à Goffman, de Sicurel à Garfinkel, de Hirschman à Tilly, des noms qui, à l'époque, sont quasiment inconnus, totalement inconnus. Et puis, l'un et l'autre, nous sommes intéressés par le politique et la sociologie politique, qui, à l'époque, est très peu enseignée en France, à part par François Bourricot ou par Mattei Degant à Paris. À Sciences Po, il n'y a pas véritablement d'enseignement de sociologie politique. On travaille sur les partis politiques, avec Lancelot, avec Charlot, mais
sur les comportements électoraux.
Et avec François Chazel, donc, nous allons introduire les grands noms, qui sont des grands noms pour le monde entier de la discipline, c'est-à-dire Talcott Parsons, c'est-à-dire Robert Dahle, dans son très grand livre « Qui gouverne », que je vais traduire. Et puis, toute analyse systémique que personne ne connaît en France, l'analyse systémique initiée par David Easton, par Carl Deutsch et par beaucoup d'autres, qui précisément voit dans le politique un sous-système du système social qui a son autonomie, qui est en rapport avec les autres sous-systèmes, bien sûr, le fameux goal attainment de Parsons, et puis le sous-système du politique qui, avec la boucle de rétroaction, vous vous souvenez, enfin, qui est en rapport avec les autres sous-systèmes, mais qui a sa propre marche, sa propre intentionnalité, sa propre manière de transformer les demandes en réaction, en action. Donc on a, au fond, tout un ensemble de théories qui nous alertent quant à l'autonomie du politique à l'égard des autres systèmes, qu'ils soient culturels, qu'ils soient économiques. Ils sont en interdépendance. Ils sont en relation les uns avec les autres, mais le sous-système politique n'est pas forcément en dépendance étroite.
Mais en présentant, en introduisant, en traduisant tous ces auteurs dans des textbooks, comme on dit, vous avez contribué à façonner
une sorte de culture générale en sociologie politique qui a été très importante pour des centaines et des milliers d'étudiants en France depuis lors. Moi, j'aimerais comprendre, parce que j'ai fait partie de ces étudiants, et j'aimerais comprendre comment, à un moment, vous êtes épris de ces textes, comment, par où vous avez commencé. Vous avez lu énormément en anglais, mais pas seulement. Vous avez traduit des auteurs allemands, des auteurs scandinaves, italiens, Etzioni, des gens. Et comment ça a commencé cette histoire? Est-ce qu'on comprend bien Aron, voir la sociologie italienne des élites, etc. Mais qu'est-ce qui vous, à quel moment vous décidez de vous intéresser aux contemporains américains, par exemple?
C'est tout mon projet, finalement. C'est tout, c'est le point nodal de mon travail, c'est-à-dire de voir ailleurs. Au fond, il y avait une très belle distinction de Merton, vous vous souvenez du grand Merton, qui à l'époque n'est pas traduit encore. Et c'est incroyable, il a fallu attendre cet ouvrage magnifique de Robert Merton. Et il a un chapitre tout à fait passionnant où il distingue le local du cosmopolite dans la manière de travailler. Je fais partie, et Drummond l'aurait dit aussi le premier, des cosmopolites. C'est-à-dire de ceux qui s'intéressent à des scènes externes aussi, à la scène nationale, et j'ai toujours été tourné vers l'extérieur qui permet la comparaison. C'est-à-dire, je vais aux États-Unis la première fois, et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Je m'y rends, je pense, quand j'ai 20 ans ou 21 ans. Je travaille au noir à New York, je porte des paquets, je traduis des textes en espagnol. C'est là que les choses se passent. Nous sommes en 1960-62, la contre-culture, la Beat Generation. C'est là où les choses se passent, tout de même, dans une France un peu qui ronronne à l'époque, ou qui est prise par les guerres coloniales. Donc je me rends aux États-Unis par un vol normal, j'ai 21 ans, et je passe 3 mois là-bas. Pour ne rien vous cacher, je descends en stop de New York à Miami, et ça ne se faisait pas du tout à l'époque, dans les camions, les lorries, les grands camions avec la vraie classe américaine, et je vais jusqu'à Miami. À Miami, je prends un avion, où je suis tout seul dans l'avion, et je me rends à Cuba, juste après la baie des cochons. Donc je débarque dans un Cuba totalement révolutionnaire, qui n'est pas le Cuba communiste, qui est le Cuba castriste, où on danse, où l'on chante, où on a la vie, où on construit des choses, une société d'utopie, où l'on met en prison, pour tout vous dire, parce qu'on n'accepte pas les étrangers. Et comme j'ai des lettres d'introduction de marxistes américains, proches de Wright Mills, que je rencontre à New York, mais c'est toute une des épopées qui n'ont pas grand intérêt, mais donc on m'amène quand même à la Havane, et je rencontre la Jeanne d'Arc castrice, qui était Aida Santa Maria, qui était la femme de Raoul Castro. Et donc, pendant 2 mois, je baigne dans le monde de qui construisent une autre vie.
Le même genre de fascination politique.
Oui,
de curiosité.
De curiosité politique, c'est toujours la même que j'ai depuis toujours. À la fois les utopies, les préjugés. Le pessimisme ambiant tout de même. Dès cette année, je rencontre de manière un peu clandestine des gens qui me disent qu'ils ne sont pas marxistes, que le Parti communiste a trop de pouvoir déjà, que Castro lui offre trop d'importance. C'est avant la grande glaciation soviétique qui va s'abattre sur Castro. Et on voit des gens qui ont une humanité, une volonté de vivre, de danser. Vous pouviez danser depuis sur des kilomètres d'orchestre. Il y a une société qui a brisé le carcan colonialiste de Batista et de la mafia américaine. Et puis, c'est l'échec. À nouveau, c'est l'échec. C'est la structure, c'est l'échec des rapports internationaux, des rapports de force. Et puis, malheureusement, toutes les années qui vont suivre de glaciation soviétique qui malheureusement se poursuivent encore de nos jours.
Donc ce voyage américain a une dimension un peu initiatique aussi. J'imagine qu'à partir de là se noue une relation avec la langue américaine.
Tout à fait. Et je me rends souvent aux États-Unis et bientôt je vais m'y rendre professionnellement puisque je vais être invité, disons dès les années 74, 75. Je vais rencontrer mes copains américains de Chicago,
Ce sont les Chicago Boys de gauche.
De la science politique.
La science politique, Philippe Schmitter, Ira Katznelson, mon ami Adam Piejorski. Il y a un foisonnement, extraordinaire. Je vais rencontrer David Apter, Terry Clark en sociologie. Au fond, on voit la sociologie en train de se faire. Je rencontre Juan Linz, Robert Dahl aussi. Donc finalement, je vais importer, comme un modeste passeur, une partie importante de ces ouvrages, de leurs ouvrages. Un peu plus tard, je vais créer, beaucoup de chance là encore, une collection qui va s'appeler L'espace du politique chez Fayard, grâce, beaucoup de chance, à Claude Durand qui s'intéresse à cela. Et je vais avoir la possibilité d'introduire en France un grand nombre de ces auteurs, parmi les meilleurs, les plus imaginatifs, Albert Hirschman, Charles Tilly, Tidas Kochpol et bien d'autres, de les traduire, de les faire connaître, dans une société française relativement rétive tout de même. Ces ouvrages n'ont pas beaucoup de succès, ne se vendent pas beaucoup, ne sont pas vraiment acceptés par mes collègues. Et pourtant, je pense qu'ils ont eu une importance considérable.
Mais s'ils ont eu une importance considérable, c'est aussi que vous avez su les présenter au public français. Si le titre n'avait pas été pris, au fond, je me disais que vous auriez pu titrer l'un de ces livres de commentaires, de présentations, en lisant, en écrivant Pierre Birnbaum. Parce qu'on a le sentiment que les deux vont vraiment de pair pour vous. Vous êtes un grand lecteur de sciences sociales.
On ne peut pas vouloir prétendre enseigner. C'est un enseignant, c'est un bonhomme qui n'a aucun mérite. Un professeur d'université, c'est quelqu'un qui n'a aucun mérite, si ce n'est qu'il a beaucoup lu et qu'il arrive à en parler de manière à peu près compréhensible. Mais en effet, j'ai toujours fait mes cours, et je pense que vous avez assisté à certains d'entre eux, avec énormément de livres autour de moi, sans notes, mais vagabondant d'un livre à l'autre, marchant debout sur l'estrade et assommant les étudiants de références, de livres, d'articles, exigeant d'eux, n'exagérons pas, mais les implorant de lire.
Mais les invitant à lire en précisant que c'est de la belle sociologie, que c'est, en ajoutant à ça une dimension esthétique, au fond ce que vous avez fait passer, et je peux en témoigner, c'est l'idée qu'un livre de sociologie peut être une œuvre comme un roman peut l'être.
Mais ce sont des romans. William Footwide qui décrit les gangs, c'est du Proust, c'est-à-dire c'est la manière dont les acteurs se situent les uns par rapport aux autres, se regardent les uns par rapport aux autres, s'écoutent, se font des mauvais coups. C'est le salon de Madame Villeneuve, c'est le salon de Proust, ce sont les salons de transposés dans les banlieues de Chicago ou dans les prenez les travaux sur la Wehrmacht. C'est toujours les acteurs qui se parlent et qui construisent des mondes et qui s'affrontent dans des intentions contradictoires ou parfois compatibles, à travers des cultures, elles-mêmes contradictoires, contraires. Et la sociologie n'a de sens que si elle dispose cette imagination, prenez le titre de Wright Mills, l'imagination sociologique. Durkheim en disposait de cette imagination, même si, bien qu'il ait été positiviste, si vous lisez même Le Suicide, vous rêvez en lisant Le Suicide. On voit des acteurs, on comprend pourquoi ils vont ou non se suicider, qu'est-ce qui peut les motiver dans leur rapport à leur propre histoire, dans leur rapport à leur historicité, à des codes culturels qui sont différents, dans des sociétés protestantes ou catholiques, dans des cantons ceci. On voit que les gens construisent leur histoire difficilement, construisent leur vie, leur rapport avec les autres, dans des contextes socio-culturels différents. C'est ça la sociologie. Prenez les très beaux livres de Robert Dahl, par exemple. Ça ne s'est jamais fait en France, à l'époque. On prend une ville qui était New Haven, et puis on y consacre 10 années de sa vie pour retrouver les réseaux sociaux, la manière dont se traduit l'influence, la manière dont s'exerce du pouvoir, la manière dont se prennent des décisions. Vous savez à quel point j'ai été attentif à cette sociologie de la décision et puis de la non-décision. Parce qu'une décision, ça veut dire qu'elle se prend. Elle ne s'impose pas simplement à travers des structures. Les structures, elles ne veulent rien. les structures, elles ne veulent rien. Encore faut-il que les acteurs prennent des décisions et qu'ils puissent les prendre, ces décisions, qu'ils aient leur latitude d'action pour prendre des décisions. Donc on a là toute une sociologie des acteurs que mes collègues américains ont mis en œuvre dans une perspective weberienne, dans une perspective de Georges Simmel aussi, celle de Georges Simmel, du sociologue de Simmel, c'est-à-dire une sociologie, comment les acteurs construisent leur monde, imaginent leur monde et rendent compte du monde des Esquimaux, du monde des Indiens Nambiquara, pour parler comme Lévi-Strauss, ou du monde des banlieues de Chicago, ou de la classe dirigeante. De Harvard et de Boston. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend des milieux sociaux. C'est de la grande sociologie. On prend des milieux sociaux et on a une telle empathie à l'égard de ces auteurs, de ces acteurs, que l'on se révèle capable de leur donner de la vie et de vous permettre de comprendre, sinon d'expliquer, la trame de leurs interactions.
Alors ça, c'est pour la curiosité. On a bien compris qu'elle part dans toutes les directions, tous les groupes sociaux, de nombreux pays, de nombreuses situations historiques. Ça c'est la curiosité sans fin, l'esprit encyclopédique, la volonté de savoir et de connaître tout ça. Et d'un autre côté, il y a vos travaux, ce sur quoi vous allez mener des enquêtes avec une dimension souvent historique. Comment petit à petit les choses se passe de ce point de vue? Vous aviez commencé par la structure du pouvoir aux États-Unis, et puis comment se développent ces travaux sur les sommets de l'État, sur l'élite?
Dans la comparaison, je pense que c'est ça l'essentiel. Et les voyages aux États-Unis, l'enseignement aux États-Unis, constant tout au long de ma vie, les trimestres entiers, les semestres passés aux États-Unis, ou dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, dans la comparaison. Pour comprendre la société française, on ne peut la comprendre que dans la comparaison, pour appréhender sa spécificité, son type d'élite, son type de pouvoir, son type d'État, son type de citoyenneté, son type d'espace public, son type de mobilisation, son type de féminisme ou d'absence de féminisme, de lutte des suffragettes ou d'absence. On ne peut appréhender cela que par la comparaison entre des sociétés catholiques et des sociétés protestantes, des sociétés fermées, des sociétés centralisées et des sociétés de type fédéral. On appréhende une société, la France, sur laquelle je vais travailler, construire un matériel empirique, que par la comparaison, et cette comparaison, dans un premier temps, elle va porter, donc, dans la continuité de l'émerveillement des études aroniennes sur les élites, sur l'élite politique. Donc, la structure du pouvoir aux États-Unis, les sommets de l'État en France, comment c'est construit.
Et dans la continuité de Tocqueville aussi.
Et dans la continuité de Tocqueville, puisque Tocqueville, c'est Aron le premier enseigne Tocqueville en France, et Georges Balandier, dans les années 67 ou 8, beaucoup de chance à nouveau, incroyable, une fois m'adresse une lettre, il me propose d'écrire un livre sur Tocqueville, qui est, vous ne le croirez pas, le premier livre publié sur Tocqueville en français, dans le monde académique. Alors il y en a maintenant des dizaines et des dizaines, mais à l'époque c'est le premier. Et c'est la même filiation. À quoi s'intéresse Tocqueville? Aux élites, aux États. L'État américain comparé à l'État français. Les élites politiques, de hauts fonctionnaires ou politiques, dans un pays et dans l'autre. La comparaison avec des codes culturels. Une société protestante aux États-Unis, une société catholique en France. Comment peut-on importer, puisque c'est le problème de la Révolution française et de la démocratie, comment peut-on construire une démocratie en France selon le modèle anglo-saxon, alors que la France est catholique et les États-Unis sont protestants? Donc s'en suivent un certain nombre de travaux sur ce qu'on peut appeler la circulation des élites. La circulation des élites, elle est différente aux États-Unis de celle qui se construit en France, précisément parce que l'État construit son propre espace politique, son propre espace institutionnel. Et donc, on n'entre pas dans le politique en France comme on entre dans le politique aux États-Unis. On n'a pas le même rapport à l'argent en France comme on a le rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les présidents de la République sont issus du monde des affaires. En Italie, tous les dirigeants politiques sont issus des partis politiques. En France, on entre dans la carrière, en particulier depuis la Ve République, par la haute fonction publique. On accède au pouvoir par un autre type de carrière qui n'est pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Donc ce sont toutes ces modifications de la circulation des élites dont je vais faire mon miel, enfin sur lequel je vais travailler, avec un matériel empirique, seul, à travers les sommets de l'État, ou grâce à l'appui de collègues, par exemple, lorsque François Mitterrand prend le pouvoir en 1981, je publie avec mes collègues, avec différents collègues qui s'intéressent aux élites, au monde administratif, au monde politique, un livre qui s'appelle « Les élites socialistes au pouvoir », qui va être un livre, au fond, qui pose la question suivante, est-ce qu'à partir d'une idéologie, le socialisme, on peut changer le rapport au pouvoir ? Est-ce que les élites changent vraiment, même s'ils professent une autre idéologie ?
Alors avant cet épisode de 1981, et ça fait écho à la manière dont cet objet se construit peu à peu pour vous dans les années 70, il y a un moment qui est celui de l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing et qui est aussi emblématique d'une transformation de la Ve République. On se rappelle que vous commencez à travailler sur ces questions quand on bascule dans la Ve République, mais en 1974, il y a là quelque chose de nouveau, on le voit peut-être mieux rétrospectivement, mais c'est le moment aussi où Bourdieu et Boltanski proposent leur travail sur l'idéologie dominante, ou en tous les cas, il y a cette idée de saisir quelque chose qui se passe dans cette prise de pouvoir, au fond, par un certain type de haute fonction publique, qui n'est peut-être pas sans rapport avec des choses beaucoup plus contemporaines en France, d'ailleurs, Pierre Birnbaum.
C'est complexe, parce que la venue au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, c'est aussi le triomphe d'un certain libéralisme. Alors évidemment, Valéry Giscard d'Estaing est énarque et haut fonctionnaire, et il incarne à son tour
inspecteur des finances,
et il incarne à son tour déjà effectivement cette prise du pouvoir de la République des hauts fonctionnaires. Mais en même temps, nous sommes après 68, et par beaucoup d'aspects, la manière dont Valéry Giscard d'Estaing va exercer son pouvoir est un peu à l'encontre de la République des hauts fonctionnaires. Il introduit le libéralisme politique, le libéralisme économique, le retrait de l'État, le règne davantage du marché. Le moment giscardien est un moment très difficile à appréhender, puisque c'est la manière dont certains acteurs économiques s'emparent du pouvoir politique aussi, deviennent plus prépondérants dans le monde du personnel politique. C'est le moment où un libéralisme remet en question la centralisation de l'État. C'est le moment où le rêve américain, c'est aussi celui de l'Express, de Servan Schreiber à gauche, qui va à l'encontre d'une société étatisée, d'un modèle d'une citoyenneté totalement centrée sur l'État. Là, on est vraiment dans l'ouverture, vers le monde anglo-saxon. Au fond, pardonnez-moi la contraction historique et l'inexactitude de ma comparaison, mais de Valéry Giscard d'Estaing à Nicolas Sarkozy, on a un biais, on a quelque chose qui va à l'encontre de l'exceptionnalisme de ces Françaises et qui privilégie le marché, le libéralisme, le monde de l'économie et bientôt les start-up. On assiste à la mise en œuvre, qui est encore le cas aujourd'hui, en 2020, d'une autre logique qui entre de plus en plus dans la société française et qui remet peu à peu en question cette logique étatique issue de siècles et de siècles d'étatisation qui donne la prééminence à un espace public unifié où on ne veut pas entendre parler ni d'argent, ni de valeurs religieuses ou de valeurs d'appartenance multiples. C'est aussi peut-être le moment d'une certaine forme de multiculturalisme qui s'introduit déjà avec Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est un mouvement qui va s'accroître de plus en plus jusqu'aujourd'hui, faire naître des listes communautaires qui étaient impensables dans une France républicaine centralisée, dans la France de la Troisième République, une France qui rejette absolument, selon la tradition révolutionnaire, toute forme d'appartenance collective, toute forme d'ethnicité, toute forme de communauté au sein de l'espace public. Je crois que le mouvement Giscard d'Estaing est un moment qui n'a pas non plus duré très longtemps, puisque ceux qui lui succèdent, c'est davantage une sorte de retour à l'État, je pense.
Mais alors justement, dans ces années 70, alors que vous introduisez tous ces auteurs, que vous travaillez sur toutes ces questions, quel est votre rapport aux politiques? On l'a laissé dans un rapport de fascination à Cuba et en même temps de lucidité par rapport à ce qui se joue. En France, la gauche est dans l'opposition, mais on sent qu'elle va accéder au pouvoir. Elle manque de le faire de peu en 1978. Est-ce que vous êtes sollicité? Est-ce que, à certains moments, vous vous posez la question de devenir un acteur politique?
Alors, je vais vous faire une confession. Je n'ai jamais dit, ce n'est pas des confessions près. J'ai une petite tentation socialiste. Donc, j'appartiens au Parti socialiste d'avant 81, 78. Et vous allez être étonné, j'appartiens même à la commission Liberté et Institutions, je ne sais plus, pendant quelques mois. Et je participe, vous allez vous évanouir peut-être, à la rédaction du petit livre programme du PS qui s'appelait Liberté, Liberté, je crois, je ne me souviens plus. Et qui va être un peu le bouquin en 81, voilà. Également, avec deux amis, Michel Tropper et Francis Hamon, on publie dans la collection du PS un livre révolutionnaire dont le pouvoir socialiste n'a pas voulu du tout tenir compte. Et pourtant, il y a le logo du point et la rose sur la couverture. Ça s'appelle « Le Parlement, pourquoi faire ?» où nous introduisons les théories de Kelsen sur la démocratie. Et nous nous déclarons, ce qui est un peu un gag par rapport à ma théorie de l'État, nous déclarons favorables à une démocratie participative extrêmement forte, où les partis politiques ont un rôle très important. Mais enfin, le pouvoir socialiste de 81 n'en a pas du compte du tout. C'est à peu près les seules expériences partisanes que j'ai pu avoir. Et pour vous faire une confession à nouveau, j'ai été effaré par la violence des rapports de courant. À l'intérieur de la section du 5e arrondissement à laquelle j'appartenais, les gens s'espionnaient derrière les portes. Enfin, c'était une violence absolument impensable entre le courant popréniste et tous ces courants qui s'affrontaient pour des bouts de gras. Et donc j'ai fui et je suis revenu sans y avoir été vraiment beaucoup aux études purement académiques. Mais au niveau des partis, non, je m'en suis tenu vraiment, je pense, à la Bibliothèque nationale. C'est le règne de... Vous avez connu, je pense comme moi, le règne de Richelieu, enfin la Bibliothèque nationale de Richelieu, qui était vraiment le havre de pensée où l'on pouvait travailler de longues heures tranquillement.
Bien, c'est depuis la Bibliothèque nationale qu'on reprendra cette conversation demain, Pierre Birnbaum. Pour parler de votre rapport à l'histoire, aux archives et de votre travail sur l'État.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sylvain Bourmeau avec Pierre Birnbaum. À voix nue. Réalisation Christine Robert, prise de son Julien Girard, attaché de production Daphné Abral, coordination Sandrine Trainer. Cette émission se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.